je viens maintenant à la présentation, j'en viens à la présentation, comme on dit, d'une personnalité qui n'a pas besoin d'être présentée, mais que je présenterai quand même. Il s'agit de, puisque nous avons fait ça toute l'année et nous continuerons, il s'agit donc de Pierre-Gilles de Gennes, qui va nous parler des matériaux biomimétiques, de la nacre aux muscles artificiels. Il est né en 1932, il est agrégé de physique, docteur en sciences. Il a commencé ingénieur au commissariat à l'énergie atomique. De 61 à 71, il a été professeur à la faculté des sciences d'Orsay. Je crois que nous avons eu au mois d'août d'ailleurs certains de ses élèves ici qui ont parlé de cette époque-là. À partir de 1971, il est devenu professeur au Collège de France, où il est toujours, et il est aussi depuis 1976 directeur de l'École supérieure de physique et chimie industrielle de la ville de Paris, sur la montagne Sainte-Geneviève. Sa spécialité, c'est la physique de la matière condensée, cristaux liquides, polymères, colloïdes, etc. Il est membre de l'Académie des sciences, de la Royal Society et de bien d'autres éminentes sociétés. Et puis, bien sûr, il a reçu de nombreux prix, dont le prix Nobel de physique en 1991. J'indiquerai seulement, pour finir, quelques publications, 500 publications scientifiques dans des revues, et puis des livres, livres sur la superconductivité des métaux, la physique des cristaux liquides, l'introduction à la dynamique des polymères, etc. Ce sont des livres en anglais. Je signale en français « Les objets fragiles », publié chez Plon en 1994, et un CD-ROM, La matière molle, physique des objets de tous les jours, CD-ROM Arte Édition, 1998. Je lui donne donc la parole maintenant, pour en le remerciant vivement d'avoir accepté notre invitation, pour une cinquantaine de minutes. Merci.
Merci beaucoup. Vous m'entendez bien ? Il semble. Eh bien, bonsoir à tous, merci d'être venus en cette fin de journée pour écouter un vieux prof. Je vais essayer de vous parler de choses simples et de choses qui sont en train de croître de façon étonnante. Le point de départ est un point de départ qui, d'ailleurs, en sociologie, pose des questions amusantes. C'est le retour à la nature. Depuis Jean-Jacques Rousseau, nous en sommes au moins à la deuxième vague du retour à la nature, avec, je dirais, la même chaleur, le même enthousiasme et la même naïveté qu'il y a eu du temps de Jean-Jacques Rousseau. Naïveté, laissez-moi vous l'expliquer sur quelques exemples, rendre ça un peu plus concret. Si je prends le public américain est convaincu qu'il devrait avoir tous ses emballages à la sortie du supermarché faits en papier. Et il ne réalise pas l'absurdité de cette proposition. Si on utilisait du papier au lieu des emballages plastiques, il faudrait en gros sacrifier une forêt de la taille d'un des États américains chaque année. D'autre part, le papier lui-même est un produit qui est extraordinairement polluant. La fabrication du papier dans les pays nordiques a tué la mer Baltique parce que le papier, ça implique des produits chimiques assez corrosifs. De nos jours, on arrive à améliorer ça. Mais croire que le papier est un produit naturel et recherchable est une naïveté. Je dirais la même chose du verre. Je ne vais pas en parler en détail, on peut dans les questions, s'il y a des gens qui sont motivés par ce genre de questions. Le verre, tout le monde voit ça comme un matériau très beau et très propre. Le verre est un des pires polluants de notre planète. Donc il y a beaucoup de naïveté là-dedans. Seulement en même temps, il y a la possibilité intéressante de réfléchir sur ce que la nature nous apprend. Et justement, ceux d'entre vous qui ont suivi la partie biologie de ces exposés au début de l'année réalisent que notre volume de connaissances a cru d'une façon extraordinaire et que nous voyons la vie en action d'une façon qui est très instructive. Là, j'ai mis une liste un peu bébête de ce que la vie nous montre, disons. Justement, des matériaux. Moi qui ai mal au dos, je pense tout de suite au collagène qui forme nos tendons d'une part, mais aussi nos disques vertébraux, et qui est une perle du point de vue de la réalisation mécanique. Même dans mon cas, j'arrive à me tourner à peu près dans tous les sens, à subir des contraintes, à peser une centaine de kilos, et ainsi de suite, et ça marche. Nous avons des systèmes plus sophistiqués comme l'os, qui non seulement réalise des performances mécaniques très belles, mais qui est capable, s'il a été fracturé, de reconstituer un nouveau matériau après avoir, dans une première étape, éliminé le matériau abîmé. Et ça, c'est un enseignement extraordinaire pour nous qui essayons de faire des matériaux nouveaux, disons. Nous sommes loin de savoir faire ça. Il y a aussi les capteurs, l'œil, l'oreille, le goût, et ainsi de suite, qui sont des capteurs extraordinaires, et les processeurs, ce qu'il y a en principe là-dedans, que nous ne connaissons pas encore très bien, eux, dans ce cas-là. Mais enfin, une phrase un peu optimiste, mais tout de même réaliste, c'est qu'on commence à comprendre les usines du vivant. Et une des questions qu'on doit évidemment se poser, c'est toujours vrai quand on parle à des étudiants, ne regardez pas uniquement ce qui est, mais pensez tout de suite à comment vous pouvez le transformer ou l'utiliser ailleurs. Et bien là, comment est-ce que nous pouvons utiliser cette connaissance ailleurs ? Alors, j'ai pris comme point de départ cette image-là, qui est un produit assez remarquable. Ce sont les carapaces des diatomées. Les diatomées sont de petites algues. Elles fabriquent des carapaces en silice qui sont absolument extraordinaires, qui sont à l'échelle, vous voyez ici, de 10 micromètres, et qui ont d'ailleurs servi d'objet modèle pour les gens qui construisaient des microscopes depuis le 19e siècle. Ils utilisaient toujours des carapaces de diatomées pour voir si leur microscope faisait de belles images. Cette petite algue, qui de rien du tout, arrive à construire ces édifices extraordinaires. Jusqu'à 1999, on ne comprenait absolument pas comment cette silice arrivait à précipiter à partir de silicates d'une façon contrôlée et guidée. En 1999, ça a été un peu compris par une équipe allemande, Kroger, et pour résumer dans un langage très simple ce qu'ils ont vu, c'est quelque chose de ce genre. À l'intérieur de l'algue, d'une cellule de l'algue, il y a un petit sac, ce que nous appelons nous une vésicule, et ce petit sac contient un silicate soluble, et ce silicate va précipiter. Mais si nous faisions ça bêtement, ce silicate, il précipiterait sous une forme, on va réparer. Ce silicate précipiterait sous une forme bête, disons, c'est-à-dire que il ferait de la silice amorphe, il ferait quelque chose de tout à fait inintéressant. Ici, la diatomée amène ce que Kroger a découvert, un peptide court, une sorte de petite chaîne de protéines qu'il a appelée une silafine, qui s'installe et qui guide la cristallisation. Et à partir de ça, se fait un petit cristal admirable. Ensuite, le sac sort à l'extérieur, les sacs se réunissent, les cristaux se soudent et font ce que nous voyons à la fin. La découverte de ces silafines est quelque chose de tout à fait remarquable. Ce ne sont pas des produits que nous pouvons rêver d'industrialiser vite, parce qu'un peptide court, c'est quand même quelque chose qui coûte très cher à synthétiser. On sait le synthétiser, ils ont la génétique des gènes qui les fabriquent, mais ce n'est pas encore quelque chose qui se prête à une industrialisation. Mais c'est un bon exemple. Voilà une usine où nous commençons à comprendre comment l'usine marche. Et puis, ayant vu l'usine, il faut aussi comprendre pourquoi le produit est fonctionnel, pourquoi le produit réalise quelque chose d'utile. Et là, j'aime bien vous parler de la nacre. Vous avez tous vu de la nacre à l'intérieur d'une huître. La plus belle nacre, c'est à l'intérieur des ormeaux, en anglais abalone. C'est de la nacre superbe. C'est une pellicule assez mince qui est constituée principalement d'un carbonate de calcium assez banal qui s'appelle l'aragonite. Mais il y a un petit quelque chose en plus que l'huître a mis en place patiemment au cours de l'hiver. Et si vous regardez l'objet, j'ai des photos, mais elles n'étaient pas très belles. Mon dessin n'est pas beau non plus, mais quand même, il vous expliquera mieux ce qui se passe. Vous voyez des petites lames d'aragonite, qui sont des lames d'ailleurs tout à fait parfaites. Ce sont des monocristaux d'aragonite. Seulement, entre ces lames est intercalée une fine pellicule de matériaux organiques qui contient du sucre et des protides. La pellicule est très fine, elle représente 5% en épaisseur du système. Et néanmoins, le produit pelliculé de cette façon a des propriétés mécaniques énormément supérieures à l'aragonite toute bête. Dans notre langage, nous disons que la ténacité, c'est-à-dire la résistance à la fracture de la nacre, est 30 fois supérieure à celle de l'aragonite, avec ce tout petit additif. Alors il y a une question de comprendre pourquoi. Parce que tant qu'on n'a pas compris pourquoi, on ne sait pas utiliser des choses comme ça. Et là, je vais être obligé de revenir un peu sur des vieilles choses, comment craque le verre, comment une poutre en fer se fendille, des choses comme ça. Voilà, disons une poutre en fer, je me suis mis à tirer aux deux bouts ici, j'avais fait une petite marque où la nature avait fait un petit défaut en surface, ça commence, la fissure commence à s'ouvrir. Et ce qu'il y a d'extraordinaire quand on y pense, c'est que moi j'ai des forces très modestes. Les forces que nous avons au niveau de notre action usuelle sont infimes par rapport aux forces qui existent entre atomes dans un cristal de fer. Et pourtant j'arrive à casser des liaisons. Ma fissure avance, c'est-à-dire que j'arrive à créer localement des forces extraordinaires. Et ceci est par un effet de concentration. C'est que les forces que j'appliquais ici sont, comme ce dessin essaye de le suggérer, concentrées près de la pointe. Donc avec une action externe très petite, j'arrive à claquer des liaisons chimiques, si vous voulez. Et c'est ça qui fait qu'on résiste mal. Le fer un peu mieux que le verre, mais pas brillamment quand même. La nacre est toute différente. Et ça, c'est quelque chose que nous avons essayé de comprendre avec un japonais très dynamique qui s'appelle Ko Okumura. Ce qu'il y a, c'est que si je fais le même genre de fracture dans la nacre, eh bien, comme les petites plaquettes organiques sont très molles, quand j'ai craqué presque partout, cette plaquette organique cède et il n'y a aucune information qui dit à cette aragonite ici qu'elle est sur le point de subir une fracture. Elle n'est pas prévenue, il n'y a pas concentration des forces. Et de ce fait, pour arriver à le faire craquer, il faut que je mette des forces qui soient importantes à l'échelle moléculaire, qui soient comparables aux forces de liaison dans l'aragonite elle-même. Alors bien sûr, la nature est moins belle que ça, ce n'est pas infiniment mou, c'est un peu mou et il faut comprendre ce qui se passe dans ce cas intermédiaire. Mais on comprend l'idée, c'est qu'un système comme ça, de plaquettes presque découplées, n'a pas de peu de concentration de force et donc résiste beaucoup mieux à la fracture. Alors ceci n'est pas totalement une surprise. Nous utilisons des matériaux composites depuis très longtemps pour fabriquer des objets résistants, dans une planche à voile par exemple, ou dans des choses de ce genre, dans le mât de la planche à voile. Mais il y a beaucoup à apprendre d'un système comme la nacre. Je vais vous parler maintenant d'un autre exemple. Et là, ce que je vous dis, c'est un peu audacieux de vous en parler, parce que ce que je vais vous dire, c'est une vision personnelle. Je ne suis pas sûr encore qu'elle soit confirmée par l'expérience. Mais comme souvent dans ces cas-là, si on le dit franchement, on peut se permettre de la tenter. Et on verra. L'objet de départ est un objet qui vous est assez familier. Un escargot. L'escargot avance en laissant derrière lui une petite traînée brillante. Il sécrète ce qu'on appelle un mucus. J'ai mis ici un petit limerick sur l'escargot que ceux d'entre vous qui sont amis des limericks aimeront, mais ça me sort un peu de mon sujet. Qu'est-ce que c'est que le mucus de l'escargot ? Eh bien, c'est principalement de l'eau, mais à l'intérieur de ça, des polymères, des longues chaînes flexibles qui sont assez remarquables. Et ces polymères sont formés avec une chaîne peptide, là encore, mais beaucoup plus longue que de ceux dont nous parlions tout à l'heure. Et à cette chaîne sont attachés des bras latéraux que j'ai dessinés ici en vert, qui sont des sucres. Et cet objet-là, dans l'eau, a des propriétés mécaniques assez étonnantes. C'est-à-dire que si je le laisse tranquille, si je ne l'agite pas trop, les sucres s'attachent entre eux. Et ce que vous obtenez, c'est ce que nous appelons un gel. C'est un système qui est ponté un peu partout et qui résiste à de légères forces mécaniques, tout à fait comme la gélatine que nous mangeons dans différents produits alimentaires plus ou moins vertueux. Et que nous mangerons de moins en moins à cause de la maladie de la vache folle. Mais si par contre je tire fort, ces liaisons qui sont fragiles cèdent et le système redevient liquide. Donc ce que nous avons là, c'est un matériau qui est à peu près solide dans des conditions de faible malheur, et puis dans des conditions de fort malheur, il est liquide. Eh bien, je pense que c'est ça qui permet à l'escargot de bénéficier du mucus pour avancer. Ici, j'ai dessiné une petite région du ventre de l'escargot. L'escargot, c'est la partie assurée que vous voyez là. Le sol est ici. Il y a du mucus là-dedans, et l'escargot avance en propageant une onde comme ceci, une onde, une région qui est plus épaisse, disons. Ici, ça ne décolle pas, vous voyez, il ne s'agit pas de faire glisser la bête sur le sol, ça serait tout à fait comme de freiner sur une route mouillée, ça ferait des dommages extraordinaires. Non, simplement, on décolle une petite partie et on fait avancer ce décollement. Et au total, quand il a avancé à travers toute la longueur, l'escargot s'est déplacé d'une longueur qui est égale à la différence entre la courbe et la droite, ici. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on arrive à le faire? C'est parce que dans cette région-ci, le mucus est torturé, il est liquide. Donc ça ne coûte pas grand-chose de fabriquer cette région. Autrement dit, l'escargot a une situation, d'une part, il tient bien au sol, par toutes les régions immobiles, et d'autre part, il peut avancer. Et vous voyez que ça, c'est un mécanisme assez riche qui peut aussi nous enseigner des choses. Incidemment, si je reviens à des choses du monde contemporain, quand un pneu frotte sur une matière dure, il y a des ondes tout à fait comparables à ça qui se présentent, qu'on appelle les ondes de Chalamac. Mais là, nous voyons comment un matériau un peu intelligent peut nous permettre des fonctions inattendues. Et je pense, là aussi, je n'ai pas le temps d'en parler, puis pas vraiment la compétence, que ce qui fait que nous arrivons à faire supporter sur nos hanches et nos genoux notre poids dans la centaine de kilos, et à faire que ça tient quand nous sommes dans des situations où tout à coup nous bougeons comme ça, c'est fondé sur une propriété très analogue du fluide synovial, qui est un gel dans les conditions de basse perturbation, et qui est un liquide dans les conditions de haute perturbation. Donc vous voyez, ces choses, nous commençons seulement à les comprendre, mais ça nous suggère des actions. Et là, je vais justement utiliser le mot « action ». Je vais partir d'un exemple qui n'est pas du tout biologique, qui est l'opposé, qui est fait avec des matériaux beaucoup plus frustes, mais très performants, que nous avons traditionnellement depuis un siècle. Un peu de propagande pour la maison que vous avez citée, l'école de physique et chimie, il y a à peu près 100 ans, a accueilli comme chef de travaux en physique un jeune homme de 26 ans. Seulement, ce jeune homme de 26 ans avait découvert à 21 ans une propriété admirable du quartz, qui est que quand on l'écrase, il développe des charges électriques. C'est ce qu'on appelle la piézoélectricité. Le jeune homme a eu aussi un nom qui est resté, il s'appelait Pierre Curie. Il a fait d'autres découvertes par la suite. Eh bien, là, je vais vous montrer d'abord ce qu'on appelle un actionneur, qui est typique de notre époque, qui commence à être monté par Toyota sur des voitures. Ce que fait ce système, c'est qu'il évalue la qualité de la route, le profil du sol, en avant de votre voiture. Et il informe un actionneur piézoélectrique qui va modifier l'état de la suspension, de façon à ce que votre suspension soit préparée à la bosse qui est ici. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas simple à mettre en place, mais on peut dire que la doctrine sur ces actionneurs durs est maintenant tout à fait établie et énormément d'objets courants sont fondés là-dessus. Par exemple, dans les lecteurs de cassettes, vous avez des actionneurs qui règlent la position du film de façon à ce qu'il se présente bien, qui sont basés sur des actionneurs durs. Mais les actionneurs durs nous laissent avec des manques. Parce que d'être dur, ça fait des matériaux robustes. Le quartz, c'est très robuste. Mais ça veut dire aussi que c'est très peu déformable. C'est-à-dire que les amplitudes que vous réalisez quand vous mettez un champ électrique sur le quartz et que vous le chargez un peu sont toutes petites. Et il y a beaucoup de cas où vous souhaitez des amplitudes grandes. Donc l'évolution du monde actuel, la question posée actuellement, c'est d'arriver à des actionneurs mous qui permettront des amplitudes de mouvement plus grandes. Seulement, on va le payer. Parce qu'il y a une loi qui est très générale dans la nature, c'est que dans un objet dur, les choses vont vite. Par exemple, la vitesse du son dans le quartz est très élevée. Dans un objet mou, le son se propage lentement. Et par conséquent, d'une façon générale, si on a des objets mous, les réponses vont être lentes. Et vous voyez un cas typique de réflexion industrielle, on veut gagner sur les amplitudes sans trop perdre sur les temps de réponse. Et c'est ça la difficulté de ce problème qui va se poser dans les prochaines années. On est loin de l'avoir résolu entièrement, et moi je vais vous citer uniquement, qu'est-ce qu'on pourrait appeler ça, quelques efforts primitifs pour essayer de trouver cette nouvelle génération d'objets. Alors, je vais revenir ici à une époque historique qui est la fin de la guerre de 40. Un grand homme qui s'appelait Kuhn a compris comment fonctionnait le caoutchouc. Le caoutchouc avait été découvert 100 ans plus tôt par Goodyear, produit admirable. Personne ne comprenait ce qu'il y avait dedans. Vous savez, la formule chimique, mais ça ne nous disait rien. Et il a fallu 80 ans pour qu'on comprenne qu'en fait, le caoutchouc était un réseau de chaînes très flexibles et que ce qui se passait dans le caoutchouc, c'était que ces chaînes se déformaient facilement parce que localement, c'était un liquide. Mais elles sont attachées entre elles par quelques points et ça permet d'avoir un système qui résiste bien. Je vous montrerai d'ailleurs un dessin de ce réseau de caoutchouc tout à l'heure. Donc Kuhn avait compris le fait que les chaînes telles que nous les fabriquons dans la synthèse de polymères sont souvent des chaînes flexibles. Et son élève Kachalski, qui est un Israélien très brillant, a, dès 1948, commencé à travailler l'idée que si on a des chaînes comme ça, on doit pouvoir agir sur elles et les faire se contracter ou se dilater par des actions chimiques. C'est-à-dire faire quelque chose qui se rapproche un peu du muscle que nous avons ou que j'avais ici autrefois. Je dis ça avec mélancolie. Alors, le premier exemple que Kachalski a pris est à peu près celui-ci. Dans ce dessin, il y a beaucoup d'eau, et puis il y a des chaînes qui justement sont flexibles, attachées entre elles par quelques points. Ça forme, si vous voulez, un gel, comme je parlais tout à l'heure d'un gel. Et ces chaînes portent ce que les chimistes appellent des fonctions acides CO2H. Si je verse de la soude là-dessus, dans le langage des chimistes, j'apporte des ions OH-, et ces ions se fixent sur mes fonctions acides et les transforment en des fonctions négatives et éliminent une molécule d'eau. Eh bien, ça change l'état du gel parce que les charges négatives se repoussent et du coup, le gel gonfle. Autrement dit, en versant la soude, j'ai provoqué un mouvement mécanique. Si je veux faire le mouvement inverse, j'agis avec l'inverse de la soude. Je prends un acide, disons de l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique amène des ions H+, qui vont se coller à ces CO2-, et je vais retourner à l'état contracté, à l'état neutre. Alors ça a l'air très beau comme ça. En fait, ce premier essai est stupide, parce que chaque fois que je fais un cycle, j'ajoute de la soude, il y a des OH-, mais la soude s'est formée d'ions sodium et d'ions OH-. Et les ions sodium, ils restent là. Ensuite, j'ajoute de l'acide chlorhydrique. Là-dedans, il y a des ions H+, et des ions chlore-. Autrement dit, chaque fois que j'ai fait un cycle, j'ai ajouté une molécule de chlorure de sodium, de sel de cuisine. Et au bout de quelques cycles, j'ai transformé mon eau ici en une saumure infecte qui, en particulier, a la propriété d'écranter, dans le langage que nous avons, de diminuer les interactions effectives entre des systèmes de charge. Donc très vite, ce système s'arrête. Kachalski a bien vu ça et il a vu une contre-mesure intelligente qui est fondée sur ce qu'on appelle l'échange d'ions. Alors ici, on part à peu près du même squelette, et on a en face des fonctions acides des ions sodium. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va leur présenter des ions bivalents, barium de plus. Et ces ions bivalents s'attachent à deux groupes acides, et évidemment, ça contracte. Incidemment, Kachalski faisait ça vers 1950. En 2000, nous ne comprenons toujours pas très bien pourquoi exactement commencer à contracter. Enfin, des gens vous diront qu'ils comprennent, moi je ne suis pas tellement sûr. Mais ça marche. Alors Kachalski, sur ce... Et là, vous voyez, on n'ajoute pas d'ions nouveaux. On va les mettre en présence d'ions barium, et puis ensuite on les retrempe dans une solution de sodium. Et Kachalski avait fait des jolies petites machines. On avait un long fil fait avec ce gel qui passait sur des poulies et qui trempait pendant un moment dans le bain de sodium, et puis qui ensuite trempait dans le bain de barium, ça se contractait, se dilatait, et ça tournait en principe à perpétuité, en tout cas pendant plusieurs jours. Donc, de ce point de vue-là, il avait réussi un premier défi. Mais néanmoins, vous voyez, ça se passait dans les années 50, il n'y a jamais eu aucun dispositif pratique qui utilise ça. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de vous faire sentir. Il y a au moins trois difficultés qui viennent à l'esprit. Première difficulté, ces espèces de machines, on transforme de l'énergie chimique en énergie mécanique, ont des rendements pas brillants. Alors, au premier coup d'œil, nous, physiciens, ça nous choque. On se dit, si je compare ça à un moteur électrique, par exemple, le moteur électrique d'une dynamo d'appoint dans la pièce à côté, là, va avoir un rendement de l'ordre de 98%. Alors, c'est gênant de travailler avec des rendements faibles. En fait, non. Ce raisonnement est trop primaire. Et je vais vous citer un appareil que vous avez tous, qu'il est lui-même en train d'utiliser, qui a une grande efficacité avec un rendement faible. C'est l'appareil qui lui permet de mettre au point. Chacun de nous, quand on met au point, on entend des petits bruits. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est un très joli système. On a un anneau piézoélectrique dans lequel on fait propager des ondes qui tournent comme ça, comme des vagues de la mer sur un anneau. Ça frotte sur une base piézoélectrique et les ondes qui avancent comme ça se couplent à l'autre et le font tourner. Ce dispositif, il a un rendement de 20%. Il a un rendement très mauvais. Mais il est idéalement adapté à faire une machine de très petite dimension et de très bonne robustesse qui est la machine qu'il y a dans ces appareils. Donc vous voyez, la question du rendement, c'est finalement une question pas très grave. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Par contre, l'histoire que c'est lent, est important. Par exemple, si nous avons l'ambition un jour de faire des muscles qui rivalisent un peu avec ce que la nature fait, nous sommes désespérés parce que si j'entends un moustique dans la pièce, le fait même que j'entende bzzz comme ça me dit que ce moustique bat des ailes à une fréquence acoustique, à peut-être 100 Hz, c'est-à-dire qu'il est capable de contracter et dilater son muscle en 1/100 de seconde. Et ça, c'est un sacré défi. En fait, les machines de Kaczalski, elles étaient très désagréables de ce point de vue-là. Parce que, vous vous rappelez, j'ai dit je mets de la soude. Mais il faut que ces ions, sodium ou H- dans le cas, ils entrent dans toute la structure du gel. Et ils entrent par des mouvements d'agitation thermique, ce qu'on appelle la diffusion, qui sont des mouvements très désordonnés et très lents. La diffusion est un phénomène lent. Pour cette raison-là, amener des ions ou enlever des ions n'est jamais quelque chose de très rapide. Et puis même si j'arrivais, alors si je voulais, ça c'est une autre chose qu'on rencontre constamment en recherche industrielle, on peut se dire, ah, il doit y avoir moyen d'amener les ions mieux. D'habitude, comment j'amène des ions ? Par des électrodes. Je mets une électrode de cuivre, une électrode de platine, si je veux qu'elle soit robuste. Mais là, il faudrait que j'ai des électrodes un peu partout dans mon gel. Qu'à cela ne tienne, nous avons des polymères conducteurs de nos jours qui nous permettraient, à la rigueur, de faire ça. Ils sont très chers, pas faciles à manier, pas très robustes. Ignorons ces difficultés. J'amène mes ions. Et je crois que j'ai résolu mon problème. En fait, non. Je n'ai pas résolu le problème parce que même si j'arrive à amener le OH- ou le H+, très vite, par une espèce d'électrode distribuée, il y a le problème de l'eau. Parce que je veux faire gonfler ma structure, il faut que l'eau elle-même rentre. Et l'eau, elle aussi, rentre par un mécanisme qui est essentiellement un mécanisme de diffusion, exactement comme l'eau rentre dans un sol s'il a plu par en dessus et qu'elle envahit le sol. Et vous savez très bien qu'elle ne rentre pas vite et qu'elle ne sort pas vite aussi. Donc, de ce point de vue-là, ces systèmes-là sont condamnés d'une certaine façon. Et puis, il y a un autre aspect auquel je suis particulièrement sensible à mon âge avancé, qui est la fatigue. Les muscles du genre Kaczalski, faits avec des gels très mous, se fatiguent considérablement. Et ça, je vais essayer de vous le montrer par une expérience que chacun de vous peut faire, d'ailleurs, qu'on peut faire à des écoliers, et même dans l'école primaire. Vous achetez de la gélatine. Ça se présente au départ sous forme d'une petite pastille, à peu près comme ceci. Et vous la mettez dans un grand bocal d'eau et vous la laissez toute la nuit. Vous revenez le lendemain matin, cette gélatine s'est gonflée de façon fabuleuse. Vous voyez le rapport des tailles et le rapport des volumes, c'est le cube de ce rapport des tailles. C'est un rapport énorme qui peut être de l'ordre de plusieurs centaines. Un autre exemple que j'aurais pu prendre, qui a un très beau rapport, c'est les couches culottes qu'on achète de nos jours, qui sont capables d'absorber l'urine du nourrisson et de gonfler par des rapports 300, quelque chose comme ça. Bon, mais ici, vous voyez ce que vous faites, mieux que dans la couche culotte, et vous êtes très content, naïvement content, parce que vous dites, j'ai gonflé mon objet et j'ai fait quelque chose qui est beau. Vous voyez, ça c'est transparent, ça n'a pas de défaut visible, on est naïvement content. En fait, j'ai dit, ça prend la nuit pour gonfler. Mais si vous dormez mal, et qu'au milieu de la nuit, vous venez voir votre bocal, qu'est-ce que vous voyez? Je vais vous montrer ce que vous voyez à ce moment-là, qui est horrible. Enfin, horrible, peut-être certains d'entre vous le trouveront très beau. C'est à peu près cet aspect-là. Ce qui s'est passé, c'est que l'eau est rentrée d'abord sur tout près de la surface. Et là, elle a gonflé la surface énergiquement. Mais l'intérieur, lui, est encore tout serré. Et alors, vous devinez bien que du point de vue mécanique, un système dans lequel certaines parties sont en train de gonfler, d'autres sont encore contractées, c'est effroyable du point de vue mécanique. Et ce qui se passe, c'est que ce système se fracture, comme vous le voyez là, en une série de fractures périodiques, qui ont d'ailleurs été étudiées par Tanaka aux États-Unis il y a une dizaine d'années. Et le résultat, c'est que cet objet-là, si vous voulez, si je le contracte et que je le regonfle, à chaque coup, il se fracture. Ce n'est pas ce qu'on veut d'un muscle. On ne veut pas qu'un muscle qui se fissure chaque fois qu'on le fait travailler. Donc, de ce point de vue-là, le problème de la fatigue est un problème difficile. Alors, je vais vous parler maintenant de quelques systèmes qui sont soit en train de naître, soit déjà en train de s'installer même au plan industriel, modestement encore, mais qui sont des exemples. Le premier système que j'ai là va être basé sur une variante du caoutchouc. Alors ici, j'ai refait un dessin de ce que c'est qu'un caoutchouc. Vous voyez ici des chaînes mobiles, c'est ce que vous prenez sur l'arbre, l'EVA, vous faites une incision, il coule une sève qui est formée de ces chaînes mobiles, et puis vous laissez le système exposé à l'air, par exemple. Les Indiens mettaient ça sur leurs pieds, et au bout d'une demi-heure, ils avaient une botte. Parce que l'oxygène de l'air avait attaché les chaînes ensemble, vous faites quelque chose qui a la cohérence d'un réseau, mais en même temps, localement, ces chaînes sont totalement flexibles, c'est liquide à l'échelle des atomes. Ce système qui est à la fois très flexible et cohérent, c'est ce que nous appelons un caoutchouc. Alors maintenant, je vais vous parler d'une autre famille de systèmes, qui est ce qu'on appelle les liquides pneumatiques, découvertes des années 1900. En Allemagne, Georges Lehmann, qui les découvre, mais qui n'y comprend rien. En France, Georges Friedel, grand patron d'une grande famille de scientifiques, 4 générations de Friedel dans les sciences. Georges Friedel, qui comprend comment ça marche. Et en gros, comment ça marche, c'est ceci. Nous sommes ici à l'échelle des molécules, c'est-à-dire, mon dessin ici vous représente 1/1000000ème de mètre, à peu près, et je choisis de fabriquer des molécules dont le centre est un bout rigide, et qu'il y a des petites queues flexibles. Alors si j'avais que les bouts rigides allongés, comme ça, des espèces de crayons, ben, ça ferait un cristal tout bête. Les crayons se mettraient les uns à côté des autres, ils se colleraient ensemble, j'aurais un cristal. Si on a eu l'intelligence d'ajouter ces petites queues flexibles, ça reste un liquide. Seulement, ce liquide peut exister soit dans l'état bête des liquides, où les molécules pointent dans toutes les directions, désordre complet, soit dans un état aligné, où les crayons se mettent parallèles, mais ils bougent quand même les uns par rapport aux autres. C'est un liquide. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle un hématique, et comme je disais, c'est vraiment Georges Friedel qui a compris par des expériences superbes pourquoi c'était comme ça. Alors maintenant, je vais combiner les deux idées, l'idée du caoutchouc et l'idée du liquide hématique. On peut faire, avec des molécules de ce genre, un réseau liquide qui sera un caoutchouc pneumatique. Ça a été fait pour la première fois par un chimiste allemand tout à fait remarquable qui s'appelle Enno Finkelmann. Et là, vous voyez qu'on peut commencer à rêver. Parce qu'un caoutchouc comme ça, si je le mets au-dessus de la température d'ordre, dans sa phase désordonnée, eh bien, il va avoir une certaine forme. Mais si je le refroidis un tout petit peu, de quelques degrés, les crayons vont vouloir se mettre parallèles, donc il va s'allonger dans un sens. Et ça, ce n'est pas un rêve. Finkelmann l'a vu à l'époque, et de nos jours, il y a des efforts nombreux sur ce genre de cas. Je vais vous montrer une photo ici qui est due aux gens de l'Institut Curie, à Patrick Keller, où vous voyez un matériau de ce genre, caoutchouc pneumatique, que Keller a fabriqué. Et ici, il est dans la phase basse température où les crayons sont parallèles. Et ici, il est dans la phase haute température où les crayons sont en désordre. Et ce bloc de matière qui est transparent a changé sa dimension, sa longueur par 30%. Donc vous voyez, avec un tout petit changement de température, il y a moyen de faire un effet mécanique qui n'est pas trivial. C'est ça l'espoir. Je passe sur les difficultés de fabrication. C'est facile pour un théoricien de dire, comme moi, de dire ça se fait. C'est des années de travail, hein, et de très belles inventions chimiques. Mais je n'ai pas le temps de vous en parler. Et je n'aurai peut-être pas le droit non plus, parce qu'il y a quand même une certaine partie de secret dans ces affaires-là. Alors, la grosse question pour nous, physiciens, dans cette histoire-là, c'est de voir si cet objet, si cette espèce de muscle primitif, va pouvoir se contracter ou se dilater vite. Et je vais vous montrer ce qu'on espère faire. Je suis vraiment en train de vendre la peau de l'ours. J'y pensais parce que la rue aux ours est à côté d'ici. Et le principe, c'est que je pars de la forme étirée où les crayons sont parallèles. J'envoie un pulse de lumière, très court. Cette lumière chauffe un peu mon système, s'il est un peu absorbant. Et s'il chauffe, il passe de la phase ordonnée à la phase désordonnée. Il change de forme. Alors évidemment, ça, je peux le faire vite. On va voir que je peux le faire vite. Mais triste sort. Après, à un moment quelconque, il faut que je retourne en arrière. Et ça, ça va faire diffuser de la chaleur. Il faut que je prenne de la chaleur à l'intérieur de mon muscle et que je la fasse sortir. Ça, malheureusement, c'est encore un phénomène de diffusion et c'est lent. Donc, on n'est pas dans le bonheur total et on a un objet qu'on peut appeler seulement semi-rapide, pas rapide. C'est-à-dire qu'il est rapide dans un sens. Mais ça, ça peut être utile. Imaginez que ce soit une mouche, Kafka, et que je suis sur la table et je sens une menace immanente. Eh bien, si j'ai un muscle semi-rapide, je peux monter au plafond et là, j'ai le temps de relaxer et de reprendre mes esprits. Donc, vous voyez, le muscle semi-rapide peut avoir des applications non triviales. Alors, question brûlante, quel est le temps que ça va mettre pour se contracter, que j'appelle tau ici. Ben, j'adore raconter ces histoires parce que je dis toujours, c'est un des rares cas où j'ai fait l'expérience moi-même et je l'ai faite à l'âge de 12 ans, en 1944, dans ma petite ville de Barcelonnette. J'étais très fier parce que j'avais une bande de caoutchouc rouge qui venait de l'intérieur d'un vieux pneu et je m'étais fait un lance-pierre avec lequel je détruisais les installations électriques de la ville, comme tous les enfants, etc. Mais en fait, je ne réalisais pas que je faisais une expérience qui est très instructive. Je vous montre un lance-pierre parce que dans le monde actuel, c'est peut-être une culture qui s'est un peu perdue. J'ai un caillou ici, je tire, et le caillou part avec une grande vitesse. Quelle est cette vitesse ? Eh bien, on peut le comprendre relativement bien. Car le caoutchouc se déforme, on passe d'une forme allongée à une forme contractée. C'est ce qui se propage depuis les bouts, en ces points-là et en ce point-là, c'est une onde de contraction. Et cette onde de contraction se fait pratiquement à volume constant. On ne change pas le volume du caoutchouc, on change seulement sa forme. Et ces ondes-là, c'est ce que nous appelons des ondes de cisaillement en acoustique. Et nous connaissons très bien la vitesse de propagation des ondes de cisaillement, qui, dans un caoutchouc, est dans la gamme de quelques centaines de mètres par seconde. Parce que le caoutchouc est mou, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas ultra rapide. Mais néanmoins, c'est des centaines de mètres par seconde. Et ceci veut dire que mon lance-pierre, ici, passe de l'état étiré à l'état au repos en quelques millisecondes. Et c'est exactement la question que je me pose. Si j'ai pris mon muscle pneumatique dans sa phase étirée, tout à coup je le chauffe, il faut qu'il se contracte, mais il va le faire en un temps de l'ordre de la milliseconde. Alors ça, vous voyez, c'est très satisfaisant. On rivalise presque avec le moustique, sauf qu'on ne le fait que dans un sens. On est semi-rapide, on n'est pas rapide comme le moustique. Mais c'est encourageant et c'est la raison pour laquelle ça vaut le coup d'essayer de fabriquer ces choses-là. Alors, la fabrication chimique de ces objets, qui est faite par les gens que j'ai cités, Philippe Auroy et Patrick Keller à l'Institut Curie, c'est un travail d'artiste, c'est ce qu'on appelle des synthèses par polymérisation anionique qui se font sous ultra-vide, dans des conditions de pureté effrayantes, etc. Et il est clair que si on arrive à faire un muscle comme ça, ce ne sera pas un muscle bon marché. Ce sera pour des applications biomédicales très sophistiquées. Mais il y a un espoir. Alors maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui est très différent pour deux raisons. D'une part, parce qu'il est plus dur, il est à mi-chemin entre le mou et le dur. Et d'autre part, parce qu'il est beaucoup moins cher. Le matériau de départ, c'est ce qu'on appelle un affion. C'est un produit commercial qui se vend par centaines de tonnes chez Dupont de Nemours, qui en a été l'inventeur. C'est un squelette de polymère, mais ici, ce n'est pas un squelette flexible. C'est quelque chose qui est dur, qui est extrêmement compact, qui est formé avec des carbones fluorés. Seulement, sur ce squelette, on a eu l'intelligence de mettre quelques fonctions acides, qui sont ici ce qu'on appelle des groupes sulfoniques. Et il reste, à cause de ces fonctions, des petites cavités, parce qu'elles aiment l'eau, dans lesquelles il y a de l'eau et un ion de charge opposée à celui-là, qui, très souvent, pour nos besoins, va être l'ion sodium. Et ces petites cavités d'eau ont en plus le mérite d'être connectées entre elles. C'est-à-dire qu'on a une sorte d'éponge, peu déformable, un peu déformable quand même. Alors, les nafions se vendent beaucoup. Pourquoi ? Parce que l'électrochimie chlorsoude, qui est, on peut dire, la base de la chimie, d'une certaine façon, c'est à peu près ce que Cyrus Smith, dans L'île mystérieuse, faisait en premier quand il commençait à réinstaller la civilisation dans son île. C'est de ce niveau-là. Eh bien, elle est entièrement dépendante de nos jours d'avoir des systèmes d'électrodes qui sont avec des nafions. Donc le matériau n'est pas cher. Et ce matériau a une propriété admirable. J'ai hésité à vous l'amener, mais comme j'étais très bousculé et qu'il faut l'amener en le gardant dans l'eau, j'avais quelques problèmes. Donc je ne l'ai pas amené. Mais je vais essayer de vous décrire ce qu'il fait. Imaginez que j'ai un petit ruban de ce nafion sur lequel j'ai mis des électrodes. Là encore, c'est le théoricien qui parle. Ça a dû prendre 3 ou 4 ans pour arriver à faire des électrodes performantes. Et ça a été fait en premier par un groupe remarquable qui travaille à Osaka, au Japon. Alors, je prends cet objet-là et je prends une pile, niveau pile von der, je mets 1 volt entre les deux faces de mon ruban. Et je vois mon ruban qui se courbe. Et je change le signe du voltage et se courbe dans l'autre sens. Et il suit assez bien, je dirais, jusqu'au dixième de seconde. S'il a quelque chose comme un tiers de millimètre en épaisseur, quelque chose comme ça. Alors vous voyez là un objet qui est assez remarquable, qui est un actionneur à la limite du mou et du dur, qui est assez remarquable. Il y a d'ailleurs un effet inverse pour ceux qui sont, comment dire, des érudits de la physique. Bon, il y a un effet inverse amusant qui est que si vous travaillez en imposant une courbure et dans les conditions que je décris là, eh bien, vous créez un voltage. Exactement comme dans la piézoélectricité, il y a un effet inverse. Soit on peut appliquer un champ électrique et voir une déformation, soit on peut appliquer une déformation et voir un champ électrique. Alors, pourquoi ça fait ça ? Pourquoi est-ce que ce nafion décide de se courber ? Eh bien, l'idée qui est à peu près acceptée actuellement, c'est souvent celle que j'appelle du voyageur avec bagage. Quand je mets un champ électrique vers le haut, les ions sodium se déplacent dans ce champ, c'est ce qui fait la conductance électrique. Seulement, ils emportent avec eux un certain nombre, comme un voyageur avec bagage, un certain nombre de molécules d'eau. Et ceci veut dire que je vais avoir un excès d'eau en haut et moins d'eau en bas. Eh bien, l'excès d'eau en haut va gonfler mon affion. Et s'il n'est pas trop dur, s'il gonfle en haut et qu'il se ratatine en bas, il va se déformer comme le dessin le dit. Voilà le principe de cette chose qui est relativement simple, mais qui n'a été, je dirais, rendu quantitatif à peu près que depuis 2-3 ans. Il se trouve que ce système a trouvé une application très intéressante par les gens d'Osaka. Ce qu'ils fabriquent, c'est un système où on n'a pas un petit ruban de nafion, puis on a un cylindre mince de nafion, comme c'est décrit ici. Et je m'excuse, c'est en anglais, mais je vais traduire. On a ce cylindre et on le coupe en quatre morceaux avec un laser à excimère. C'est-à-dire qu'on le découpe en quatre secteurs. Une fois qu'on a ça, si on adresse par exemple cette paire avec un voltage positif ici, un voltage négatif là, eh bien, pour la raison que je disais tout à l'heure, le système va se courber dans ce plan. Et si au contraire j'avais actionné l'autre paire, il se serait courbé vers le haut ou vers le bas. Donc je peux orienter à mon choix cet objet. Qu'est-ce qu'on fait avec ? Eh bien, on construit un tube de ce genre qui peut être orienté à la commande dans deux directions et on le pourvoit au bout d'un fil très coupant qui va jouer le rôle d'un scalpel. On fait entrer cet objet qui est petit dans la veine d'un chien. On le suit, on le téléguide depuis la veine jusqu'au cerveau. Quand il y a un choix à faire, quand il y a un embranchement sur la route, on l'amène vers du bon côté de l'embranchement très facilement, parce qu'il a sa tête qui se courbe, on l'amène très facilement dans la bonne direction. On l'amène finalement au cerveau, et une fois qu'il est bien localisé dans le cerveau, on suit tout ça au rayon X, on peut faire de la microchirurgie interne dans le cerveau du chien. Et ceci va devenir, semble-t-il, un outil très important de l'avenir. Là, j'ai beaucoup d'admiration pour cette réalisation des équipes japonaises, parce que d'un côté, c'était des gens très fondamentalistes, ils ont compris beaucoup des mécanismes qu'il y a là derrière d'une façon remarquable. C'était des électrochimistes au départ, ils ont vraiment compris ce qu'ils faisaient, mais de l'autre côté, ils ont eu la bonne réaction, en un temps très court, d'arriver à un produit. Et ça, c'est une leçon qu'il est bon d'apprendre, je dirais. Bien, j'ai à peu près fini mon exemple. J'ai été trop vite sur bien des points, mais je sais que mon voisin a une matraque à son côté et que si je parle trop longtemps, ça finira mal. Je vais finir simplement par une page de livre qui dira beaucoup mieux que ce que je vous ai dit, l'esprit que nous aimons dans ces affaires-là. Le livre est de Primo Levi. Primo Levi, au départ jeune ingénieur chimiste, qui après se trouve dans les camps de la mort, qui en ressort par un miracle et qui se met à écrire avec deux thèmes, dont l'un est le souvenir des camps et l'autre est sa vie quotidienne d'ingénieur chimiste. Et Primo Levi a écrit un livre particulièrement admirable qui s'appelle « Le système périodique » où il raconte un certain nombre d'histoires qui sont presque des histoires de détectives et qui sont les histoires de bonheur et de malheur d'ingénieurs qui font face tout à coup à des catastrophes ou à des menaces ou à des choses incomprises ou à un produit qui ne marche plus, des choses comme ça. Et dans ce livre, il y a une page, je me suis dit que je vous la montrerai parce qu'elle est trop belle. Je ne vais pas la lire en entier, mais je la laisse volontiers sur l'écran ici. Et j'en garde seulement ce petit extrait qui est, si vous voulez, le rêve de nous qui parlons de ces choses. C'est communiquer la saveur forte et amère de notre métier qui n'est jamais qu'un cas particulier, une version plus hardie du métier de vivre. Voilà l'esprit de Primo Levi et j'espère que certains d'entre vous, s'ils ne l'ont pas lu encore, auront l'occasion de le lire dans le futur. Ça sera beaucoup plus important que cette conférence. Voilà, je m'arrête là. Merci pour votre attention. Merci.
Moi, c'est très simple, c'est cette année vos conférences au Collège de France, c'est quel jour de la semaine et à quelle heure?
Écoutez, je dirais que c'est toujours amusant de parler du Collège de France. Je vais peut-être, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas subi du tout, en rappeler quelques points. Le Collège de France est fondé 1530 parce que déjà à cette époque, l'université ne fonctionne pas. les humanistes viennent trouver le roi de France, François Ier, et lui disent « il faut autre chose ». Et François Ier dit « d'accord, je vais créer quelque chose, on appellera ça les lecteurs royaux, et ça va enseigner sur n'importe quel sujet ». Mais François Ier est un fin politique, comme beaucoup de François, et il dit « ah, mais je stipule que les professeurs au Collège de France n'auront pas l'autorisation de donner des diplômes. C'est une mesure purement politique pour éviter des conflits entre la Sorbonne et le Collège de France. En fait, cette mesure s'avère l'éperon qui a été la vie du Collège de France depuis ce temps-là. Parce que nous faisons des cours pendant typiquement 10 semaines, 15 semaines, et quelquefois plus, et personne n'est tenu de venir les entendre. Et comme personne n'aime parler devant un amphithéâtre vide, il y a une angoisse extraordinaire qui se crée chez le conférencier. Et chaque année, on rame pendant 6 mois, je dirais, en se disant qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui sera utile cette année, quel est le genre de thème qui est en train de naître. Il faut parler de choses nouvelles. Il ne s'agit pas de faire des cours, justement, comme à l'université, où on décrit une science déjà en place. Donc on est dans cette situation qui est amusante, mais qui est en même temps très tendue, mais qui a l'avantage de vous faire aller, vous garder réveillé, disons, d'une certaine façon. Alors moi, dans le cas particulier, ce que je vais faire cette année, c'est que je vais parler des mousses. Vous me direz que les mousses, c'est quelque chose de très bébête. En fait, non. À la fois dans la façon dont se produit une mousse, dont elle vieillit, dont elle se fragilise, qu'est-ce qui la permet de la garder stable ou de la détruire? On a quelquefois besoin de l'un ou de l'autre. Il y a encore pas mal de mystères. Et j'ajouterai que, si vous voulez, les applications des mousses dépassent beaucoup ce que nous attendons au premier coup d'œil. Vous savez, quand on parle du mot détergent, on pense tout de suite à la lessive, on se dit c'est ça, l'industrie des détergents. Mais non, la grosse tonnage de détergents fabriqués sur notre globe, c'est pour séparer des minerais. Par exemple, de plomb, de choses comme ça. On a une cuve qui est plus grande que cette salle. Dans cette cuve, on fait entrer le minerai précieux et sa gangue, et on s'arrange, c'est plein de bulles, c'est une mousse, et on s'arrange pour que, par exemple, le minerai précieux monte en haut, la gangue ne monte pas. Et de cette façon-là, on sépare le minerai de la gangue. C'est ça, une application typique des mousses. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, c'est un sujet que j'aime bien, parce qu'il a un côté, il y a des questions fondamentales, il y a des choses curieuses, mais en même temps, il y a un côté amusant pour l'avenir. Alors, pour répondre précisément à la question, autant que je me rappelle, ça va être les jeudis après déjeuner. Mais je devrais être honnête. Je dirais que le danger de ces cours du collège, moi, quand j'y suis arrivé au collège, j'étais tenté de suivre les 52 professeurs, parce qu'il y avait des thèmes aussi bien en archéologie qu'en philosophie, etc. Chacun avait quelque chose de très prenant. Mais en réalité, il y a un côté difficile là-dedans. Ce n'est pas comme ici. C'est-à-dire qu'on fait constamment référence à une culture antérieure. Pas forcément dans les mousses. Je dirais que, par exemple, à une époque où nous étudions les savons, il y a une vingtaine d'années, je disais tout naturellement, il y a ici un phénomène de symétrie brisée qui est un peu l'analogue de ce que nous avons dans les supraconducteurs. Eh bien, vous comprenez que pour un public qui n'aurait jamais entendu parler de supraconducteurs, il est cueilli à froid. Et au bout de 8 jours, il lâche. Donc, soyons prudents. Ces cours collèges ont souvent un aspect qui fait qu'on est très tenté d'y aller, mais en fait, ils sont quand même durs.
Monsieur,
oui,
allez-y. Signalez-vous, oui. Hein, s'il vous plaît.
J'en vois un là.
Oui, ici, monsieur. Non, c'est bon, ça marche. Ça, il suffit que vous parlez dedans.
Oui, monsieur Degen, votre prix Nobel était... Enfin, pourriez-vous expliquer sur quel domaine était basé... ont été basées vos recherches qui vous ont permis d'obtenir le prix Nobel il y a quelques années?
C'est un peu relié à ce que je disais tout à l'heure. Je disais qu'il y a eu des choses comme les piézoélectriques qu'on comprend depuis longtemps, et puis après, il y a des systèmes mous. Mais on peut dire que de la même façon, la science du XXe siècle, dans une première moitié du siècle, était une science plutôt des systèmes très organisés comme les cristaux. Et puis, dans la deuxième moitié du siècle, elle a basculé vers des systèmes moins organisé, plus difficile à systématiser, comme par exemple ces polymères fondus que je dessinais à propos du caoutchouc, ces choses-là. Quelle est la forme de ces chaînes? Comment elles se tiennent entre elles? Comment fonctionne une matière plastique, qui est un polymère fondu qui se gèle, qui devient dur. Pourquoi est-ce qu'il est dur? Pourquoi est-ce que le plastique est infiniment meilleur mécaniquement que le verre? Des choses comme ça. Ça, c'est des choses de la deuxième moitié du siècle. Et nous, dans une petite mesure, hein, pas de cocorico, on a participé à cette partie-là de l'action. En particulier à comprendre la façon dont se disposent dans l'espace des chaînes flexibles, des choses comme ça. Et aussi à comprendre dans le temps comment ça bouge. Ça bouge un peu comme un serpent. Une chaîne se faufile parmi d'autres, tout à fait comme un serpent dans une forêt de bambou, si vous voulez, des choses comme ça. Donc c'est un peu à ça que faisait allusion ce prix. J'ajoute une réserve, c'est que ce système des prix, je ne vais pas cracher dans la soupe, il m'a énormément aidé à faire fonctionner, à faire revivre l'école de physique et chimie, parce qu'il l'a mise en vedette. On a eu 2 prix en 2 ans, à peu près, avec Georges Charpak. Mais le prix en lui-même correspond à une vision qui était celle du début du siècle. Et à mon avis, les prix de l'avenir devraient être beaucoup plus des prix portant sur des équipes que sur des personnes. Vous voyez la nuance.
Monsieur.
Oui, merci, j'ai beaucoup apprécié quand vous avez parlé du lance-pierre, parce que ça m'a rappelé des moments où j'ai aussi été... Alors, je ne pense pas que grâce à ça, j'atteindrai un jour le prix Nobel, mais je voudrais vous poser la question suivante. Quelle est la part du jeu et de l'amusement dans la recherche?
Ça, c'est une question très difficile. J'ai envie de dire que c'est vrai que si vous interrogez beaucoup de chercheurs, ils vous répondront qu'ils ont un grand bonheur à faire ce qu'ils font. Ceci dit, ça ne peut pas être, ce n'est pas acceptable du point de vue social que ce soit uniquement un jeu. Je veux dire qu'il y a une tendance, que moi-même j'ai éprouvée à certaines époques, mais qu'on voit dans certains groupes, à faire des choses très belles, mais qui sont, je comparerais ça un peu à un club d'échecs. On fait des coups d'échecs admirables, on se réunit dans un bistrot et on en parle, et ça peut être sublime, mais ça ne justifie pas vraiment que le contribuable y mette beaucoup de billes. Donc, à mon avis, il y a un équilibre assez subtil. Il faut le côté, cette espèce de bonheur, de voir des phénomènes bizarres et progressivement d'arriver à comprendre comment ça marche. Et après, comme je disais, comment on peut les modifier, comment on peut agir dessus. Il faut cette espèce de bonheur. C'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Parce que si on se laissait guider uniquement par ça, on arrive à des excès. Et je vais vous citer un excès qui est dans tous les journaux de ces jours-ci. La machine soleil. Vous voyez, le public des chercheurs français se régalait parce qu'on va construire un nouveau synchrotron à Orsay. À mon avis, ce n'était pas du tout prioritaire. Ça leur fait très plaisir. Ils vont beaucoup s'amuser avec. Je ne suis pas sûr que ça apporte des révolutions scientifiques. Alors là, je vais peut-être me faire écharper à la sortie.
Monsieur.
Oui, bonsoir, monsieur.
Signalez-vous, si vous voulez, des paroles.
Bonsoir monsieur, votre exposé m'a énormément intéressé, c'est absolument génial, par exemple, par rapport à la médecine. J'ai pensé à un truc idiot, mais je vous en parle quand même. À mon avis, on devrait pouvoir suppléer un muscle, ou le remplacer, ou même assister un muscle. Je pense par exemple à tous les problèmes comme un problème cardiaque, j'en fais pas partie. Les personnes qui ont des muscles défaillants, on peut remplacer les muscles. Donnez-nous des renseignements là-dessus, s'il vous merci.
Bon, je dirais qu'on est encore à un niveau très modeste. Mais par exemple, avec les nafions que je décris là, ce n'est pas impensable d'arriver à des actionneurs. Vous voyez, j'ai dit qu'ils répondaient au 1/10 de seconde. Ça, c'est largement suffisant pour la majeure partie des gestes que nous faisons en conditions normales. Bien sûr, nous pouvons faire plus vite dans un cas de panique, quelque chose comme ça, mais pour beaucoup de conditions physiologiques normales, la situation où on est à l'échelle du 1/10 de seconde est acceptable. Donc de ce point de vue-là, il y a un espoir, mais il y a encore énormément à faire. Et puis, il n'est pas sûr que les voies que je vous disais là s'avéreront les plus astucieuses à échéance. Nous sommes dans un monde où constamment, comment dire, une autre idée sort, et c'est peut-être une autre idée qui va gagner là-dessus. L'idée qui serait très difficile, ça serait de suivre le vrai muscle de trop près. Le vrai muscle est un outil extraordinairement beau, relativement bien compris maintenant. Il y a des chaînes interpénétrées de myosine et d'actine dans le muscle strié qui se déplacent comme ça, et ça arrive à travailler rapidement et longtemps, etc. La question d'alimenter en ions localement est faite par un réseau nerveux qui va produire des ions calcium un peu partout dans la structure. C'est pour ça qu'on peut alimenter vite. Mais cet objet admirable, on est très loin de pouvoir synthétiser quelque chose qui soit comparable à ça. Donc, il faut beaucoup d'humilité là-dedans. Ce qu'on fait, c'est vraiment, je sais pas, c'est comme le gamin qui essaye de faire un dessin d'après une Madone de Léonard de Vinci. Hein. On est dans ce rapport-là.
Écoutez, nous allons vous remercier. Merci beaucoup.
Bien, bien.